VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. Il est 11h en temps universel. Les autorités zambiennes ont expulsé aujourd'hui vers le Zimbabwe l'opposant zimbabwéen Tendai Biti, passant outre une décision de justice interdisant son expulsion, a affirmé à l'AFP. L'avocat de l'opposant, ils ont bravé la décision de justice qui l'autorisait à demander l'asile politique et à l'heure où je vous parle, il est en train d'être remis aux policiers zimbabwéens, a assuré l'avocat Gilbert Ferry. Figure de l'opposition et ancien ministre des Finances, Tendai Biti avait passé mercredi la frontière zambienne pour y demander l'asile politique. Le président sud-soudanais Salva Kiir a publié un décret par lequel il amnistie les rebelles dont son grand rival Riek Machar, a rapporté aujourd'hui la radio d'État. Monsieur Kiir a également renouvelé son appel à ce que ses troupes respectent le cessez-le-feu signé en juin avec Monsieur Machar. Cette annonce intervient peu après la signature dimanche à Khartoum d'un accord de partage du pouvoir entre le gouvernement et la rébellion qui doit notamment permettre à Riek Machar de retrouver son poste de vice-président. Au Mali, la Cour constitutionnelle a proclamé ce mercredi les résultats définitifs du premier tour de la présidentielle. Ibeka, le président sortant et candidat à sa propre succession, sera au second tour face à Soumaïla Cissé. Cette décision est définitive. Les recours de l'opposition ont été rejetés en bloc. Les explications de Kassim Traoré à Bamako.
À travers cette proclamation, la Cour a rejeté toutes les requêtes introduites à son niveau. Les 9 sages ont procédé à des redressements avant de publier les résultats définitifs. Manassa Danyogo, président de la Cour constitutionnelle du Mali.
Électeurs inscrits 8 462, votants 3 416 218, bulletins 224 069, suffrages exprimés 3 192 149, taux de participation 42,70%.
Comme lors des résultats provisoires, il n'y a eu aucun changement avec les résultats définitifs.
41,70%, Aliou Diallo 8,03%, Soumaïla Cissé 17,78%, considérant que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu 1,331,132 voix et le candidat Soumaïla Cissé 567,679 voix, il y a lieu de les déclarer candidats au deuxième tour du scrutin du 12 août 2018.
Les Maliens sont encore appelés à départager Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé comme lors du second tour de 2013. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En RDC, le candidat de la majorité au pouvoir à la présidentielle du 23 décembre, Emmanuel Ramazani Shadary, a clamé ce mercredi que les Congolais ont besoin de paix, du social et de la reconstruction. Sa désignation a suscité des réactions au sein de la classe politique congolaise et dans les rues de Kinshasa, dans la capitale congolaise. Donc, suivez le reportage de Thierry Kabundi de Top Congo FM, nos stations partenaires dans la capitale congolaise.
Nous venons de terminer l'étape de dépôt de la candidature du candidat du Front commun pour le Congo que je suis. C'est l'occasion ici de remercier Dieu Tout-Puissant. Remercier sincèrement et surtout l'autorité morale du Front commun pour le Congo, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Joseph Kabila Kabange, un homme exceptionnel en Afrique, même à travers le monde. Il a dit qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Aujourd'hui, il a tenu parole.
Ce sont les premiers mots d'Emmanuel Ramazani Shadary en tant que dauphin de Joseph Kabila prononcés après le dépôt de sa candidature à la présidence de la République. À 57 ans, c'est lui qui sera le porte-drapeau de la coalition au pouvoir, le Front commun pour le Congo, le 23 décembre prochain. Un choix judicieux pour un fidèle à Kabila, selon Serge Kadima, cadre du PPRD, parti présidentiel.
Emmanuel Shadary a l'avantage de connaître très bien les partis, pour avoir commencé dans ses partis comme militant d'abord, puis comme cadre. Il connaît très bien les chefs de l'État. Il a été pendant 5 ans président du groupe parlementaire PPRD au niveau de l'Assemblée nationale. Nous pouvons considérer dans une large mesure que c'est un bon choix du chef dans sa sagesse légendaire.
À l'opposition, l'on se satisfait du respect de la Constitution qui interdisait à Joseph Kabila de briguer un troisième mandat consécutif. Mais Eve Bazaïba, la secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, estime que Ramazani Shadary ne fera pas le poids face à l'opposition.
Nous sommes extrêmement ravis de voir que la disposition constitutionnelle selon laquelle il n'y a que 2 mandats pour un président élu vient d'être réalisée. Donc, la désignation d'un dauphin par M. Kabila est une victoire de la démocratie et victoire de tout le peuple congolais qui s'est battu de sorte que la constitution soit respectée. Pour le reste, nous savons que M. Chadari sera battu à plate couture par l'opposition, étant donné qu'il va assumer tous les passifs de la mauvaise gouvernance dans le chef de la majorité présidentielle.
Jean Baudouin Maillot de l'UNC de Vital Kamerhe qualifie de son côté le choix du dauphin de Kabila comme la victoire du peuple congolais.
C'est la victoire du peuple congolais. Il a pu imposer le respect de sa constitution. Le président Kabila s'est incliné devant son propre serment. Le tout, c'est à la faveur de la démocratie dans notre pays. Pas de troisième mandat et il n'y en aura pas.
Et dans les rues de Kinshasa, autant on est divisé quant au choix de Chadari comme candidat président de la République, autant on salue unanimement le respect par Joseph Kabila de la Constitution.
Le chef de l'État a essayé de respecter la Constitution en désignant un dauphin, bien qu'en retard. Mais moi je crois que le choix du qu'ils appellent camarade de Chadari n'est pas un bon choix à mon sens. Parce que c'est quelqu'un politiquement qui n'est pas vraiment routier.
La désignation de M. Ramazani Chadari comme dauphin du président Kabila est un grand pas qui crédibilise le processus électoral actuel. Bravo à M. Kabila qui a su montrer qu'il est capable de tenir parole. Pour la suite, nous souhaitons que le processus se déroule en toute transparence.
Il avait promis qu'il respecterait la constitution, évidemment. Nous voyons qu'il a respecté.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Merci Thierry. L'envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahara occidental espère une reprise d'ici la fin de l'année des pourparlers entre le Maroc et le Front Polisario pour mettre fin au conflit qui les oppose depuis des décennies, a indiqué hier la présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. L'envoyé spécial Horst Köhler, ancien président de l'Allemagne et ex-directeur du FMI, a présenté en privé au Conseil son plan pour relancer des pourparlers interrompus depuis 2008. Rabat considère le Sahara occidental comme faisant partie du Maroc et propose une autonomie à ce territoire riche en ressources. Le Front Polisario, lui, insiste sur l'organisation d'un référendum sur son indépendance. Je vais y arriver. Rachida Tlaib, nous sommes ici aux États-Unis, fille d'immigrés palestiniens arrêtée il y a 2 ans pour avoir perturbé un discours de Donald Trump, est rentrée dans l'histoire mercredi en s'assurant de devenir la première musulmane élue au Congrès américain. Cette ancienne avocate de 42 ans a remporté une primaire démocrate dans le Michigan. Aucun autre candidat ne se présentant en face, elle est assurée de faire son entrée à la Chambre des représentants après les élections législatives de mi-mandat. Ce sera au mois de novembre.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 7h08. Des dizaines de personnes ont été tuées ou blessées jeudi dans une attaque contre un bus transportant des enfants dans le nord du Yémen, a annoncé la représentation du Comité international de la Croix-Rouge, le CICR, dans ce pays en guerre. Après une attaque ce matin contre un bus transportant des enfants sur un marché de Dayan dans le nord de Saada, un hôpital soutenu par le CICR a reçu des dizaines de morts et de blessés, a indiqué l'organisation sur Twitter, sans préciser la nature de l'attaque. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé aujourd'hui à Nagasaki, ville du sud-ouest du Japon, théâtre d'un bombardement atomique, le 9 août 1945, un appel urgent à accélérer la dénucléarisation nucléaire dans le monde. 73 ans après, plane toujours le spectre d'un carnage impensable, a déclaré Antonio Guterres, premier patron de l'ONU en exercice, a assisté à la cérémonie d'hommage aux victimes dans cette cité. Les puissances nucléaires dépensent d'énormes sommes pour moderniser leur arsenal et les processus de désarmement ralentis se sont même arrêtés, a-t-il déploré. Il y a un besoin urgent de désarmement de toutes sortes et plus particulièrement nucléaire, a insisté le patron de l'ONU. Et puis une violente réplique de magnitude 5,9 du séisme de la semaine dernière a frappé aujourd'hui l'île indonésienne de Lombok où les équipes de secours apportaient de l'aide aux victimes du séisme qui a fait il y a 4 jours au moins 164 morts selon les autorités locales. Des habitants évacués après le séisme de dimanche et logés dans des abris de fortune ont couru sur la rue en criant. Des motocyclettes stationnées dans la rue sont tombées par terre et des murs de bâtiments proches se sont effondrés, a constaté sur place l'AFP. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes et ce sera en compagnie de Henri Francisque. Bon après-midi à tous.
au cœur de l'info sur VOA Afrique.